Jeudi 21 mars, venez célébrer l'arrivée du printemps par un 5 à 7 du tonnerre. Venez voir et entendre Léopold Lauzon, oui, le prof Lauzon et son humour caustique, parce que des fois, il vaut mieux en rire. C'est au Petit Impérial, 240 rue Saint-Joseph-Est, au bénéfice du Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec. Entrée, 25 $. Billets en vente par Internet en vous rendant sur le site du Fonds de solidarité, fsgpq.org. Le professeur Lauzon, 21 mars, au Petit Impérial.
Onde poétique. Nos rives sont d'infinis espaces. Nous marchons sur des pierres, enracinées dans les eaux. Des ponts naissent sous nos yeux. Le sommeil est plus lointain que le vent. Tu avales les routes pour faire languir notre dérive. Et tu dis parfois le monde, un soleil froissé sous les bras. Il y a des matins trop petits, par d'insistantes lumières. Il se peut que tu me touches, sans savoir que tu me tiens. Comment tenir en équilibre, avec un bout de ciel entre les mains?
Texte et lecture de Dominique Zalitis sur une conception sonore de Mathieu Campagna pour le Printemps des poètes.
Salut, c'est Yann Perrault. Vous écoutez CKIA 88.3 FM à Québec.
Sur les ondes de CKIA FM, vous écoutez Ainsi soit-elle, votre magazine féministe et libertaire préféré. Alors, derrière le micro, c'est Tiffen et il y a aussi Marie et Riff qui sont là.
Allô!
Salut! Et puis, aujourd'hui, on reçoit deux personnes pour une entrevue qui devrait prendre la majeure partie de l'émission. Donc, Isabelle Picard, qui est co-porte-parole des États généraux de l'action et de l'analyse féministe et membre de leur comité d'orientation.
Bonjour!
Et Elisabeth Gerbin, qui est vice-présidente et membre du collectif, vice-présidente de la FFQ, pardon, et membre du collectif Léa Robac à Québec, et sûrement plein d'autres choses aussi.
Bonjour.
Bonjour. Donc, on va parler aujourd'hui des états généraux de l'analyse et de l'action féministe. On aura le temps d'y revenir, et puis on fera évidemment un calendrier militant qui est super chargé pour les deux semaines qui s'en viennent. Donc, il y a plein de choses intéressantes.
C'est le printemps.
Voilà, voilà. Puis sinon, ben on écoute aujourd'hui une sélection musicale de Riff et peut-être un petit peu de Marie aussi, je crois.
Oui, oui.
Donc voilà, je les laisse commencer.
Alors on va commencer avec Viviane Dour. C'est parti.
C'est cool, on vous pense, je te ferai de toi. Watuba, wagabon, mayombe, yonwi. Watuba, wandargi, putinan yaman bambe. Don't j'ai tout bas. Mani, soulel yala dimbalé, bengen dembe bir tuba, jakar lok sen saliw, dungen nangi. Mani, souma yala dimbalé, bama dembe bir tuba, jakar lok sen saliw, bengen nangi. J'ai, mani, bamba jarnako. Soulen yalla dimbalé ba ngén dem ba bir Touba jakar lok Seigne Saliw du ngén nang
Soulen yalla dimbalé ba ngén dem ba bir Touba jakar lok Seigne Saliw
mani tukat tukat len baba jar nako gay len ñu tukat tukat way baba jar nako
Toujours à l'écoute d'Insisquatel sur les ondes de CKIFM 88,3 et on est en compagnie d'Isabelle Picard et Elisabeth Germain, donc co-porte-parole des États généraux de l'action et de l'analyse féministe et vice-présidente de la FFQ. Respectivement. Et puis, donc, on est là pour parler des activités qui s'en viennent dans le cadre des États généraux du féminisme. Mais peut-être, tout d'abord, pour placer un peu les choses, qu'est-ce que c'est, Elisabeth, la FFQ, pour les gens qui ne le sauraient pas déjà?
OK. La FFQ, ça a été créé il y a 40 ans déjà, 45 ans, par un groupe de femmes qui voulaient qu'il y ait une espèce d'action commune et solidaire des femmes au Québec sur des questions très générales, au niveau plus politique qu'au niveau de questions particulières. Alors, ça a commencé comme ça, tout petit, et puis peu à peu, ça a grossi. Puis là où il y a eu un gros coup d'envoi qui a été donné, c'est autour de la Marche du pain des roses en 1995. Ça, ça a créé beaucoup d'enthousiasme à travers tous les groupes de femmes au Québec. Puis là, la FFQ a grossi, puis elle s'est engagée résolument dans le combat contre la pauvreté des femmes et la violence faite aux femmes. Et puis aujourd'hui, il y a 180 groupes de femmes qui font partie de la FFQ, plus à peu près 650 membres individuels, parce qu'on peut, comme femme individuelle, adhérer à la FFQ aussi.
Super. Donc, c'est la Fédération des femmes du Québec qui a lancé l'idée des États généraux de l'action et de l'analyse féministe. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des États généraux de la FFQ ou des États généraux du féminisme?
Non, c'est pas les États généraux de la FFQ, c'est les États généraux du mouvement des femmes au Québec. Et bon, oui, c'est une initiative de la FFQ parce que comme la FFQ rassemble la majorité des mouvements de femmes au Québec, elle était bien placée pour lancer l'initiative. Mais ça la dépasse. Puis, comme par exemple, la FFQ, elle a des positions sur certaines questions, mais là, c'est pas la FFQ qui va imposer ses positions, c'est l'ensemble des femmes du Québec qui peuvent aller exprimer leurs réflexions, leurs doutes, leurs questions, leurs désirs pour l'avenir. Alors, c'est comme un bébé qui se détache de la FFQ puis qui souhaite dynamiser l'ensemble du mouvement des femmes. Ensuite, chaque groupe de femmes en tirera les conséquences pour lui-même. La FFQ, comme les autres, va s'ajuster à partir de ce qui se sera passé aux États généraux.
D'accord. Et puis donc, ça fait déjà quelques années que le processus s'est enclenché. Isabelle, comment ça s'est passé un petit peu là, depuis le tout début?
Donc, comme Élisabeth l'a mentionné, le processus a été initié par la Fédération des femmes du Québec, en partenariat également avec Relais Femmes et Femmes autochtones du Québec, qui sont également deux organisations qui ont été au point de départ responsables pour lancer les États généraux qui ont débuté donc au mois de mai 2011. Donc, on est tout près déjà de 2 ans de réflexion et d'action en ce sens. Et donc, cet événement s'est déroulé à Montréal. Et donc, lors du lancement des États généraux, il y a un comité d'orientation qui est un comité indépendant, dans le fond, qui regroupe une 20aine de femmes qui ont eu besoin à ce moment-là et qui se rencontrent encore aujourd'hui. Dans le fond, le comité d'orientation définit les grandes orientations de la démarche des États généraux. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. Le comité existe, est toujours très actif. Donc, ce sont des femmes de tout horizon, de toute région, avec une ouverture à la diversité, aux divergences d'opinion. Donc, l'aspect de l'inclusion est un aspect très, très important aussi au sein du comité. Et c'est vraiment des valeurs qu'on souhaite véhiculer pour l'ensemble du mouvement des femmes tout au long de la démarche des États généraux. Donc, c'est de là que ça débute.
D'accord. Et puis donc, cette démarche-là des États généraux, elle se fait en plusieurs temps distincts. Ça a été lancé en 2011. Là, on arrive presque au moment d'une tournée régionale. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme moment fort et qu'est-ce qui est prévu jusqu'à la fin du processus?
Oui. Alors, dans le fond, ce processus-là, c'est un processus de réflexion, c'est un processus d'action. On disait tantôt que ça regroupe, bien entendu, le mouvement féministe dans la société, mais ça regroupe également, donc, les groupes de femmes, bien entendu, mais toutes les femmes, comme individus qui se sentent interpellées par les enjeux féministes peuvent également contribuer à la démarche des États généraux et bien entendu les femmes qui se reconnaissent comme féministes dans la société. Donc, c'est un mouvement vraiment rassembleur autour de ce projet. Alors ça, c'est un aspect important à mentionner. Également, donc, entre le lancement des États généraux en mai 2011 et le colloque des États généraux de l'analyse et de l'action féministe en mai 2012, qui a eu lieu à l'Université Laval, donc à Québec cette fois-ci, il y a eu une consultation importante qui a été faite dans l'ensemble du mouvement des femmes pour aller chercher et créer des événements publics un peu partout pour justement aller recueillir quels sont les enjeux importants à considérer, quels sont nos gains, quelles sont nos victoires au cours de ces dernières années et vers quoi on souhaite faire diriger le mouvement, donc dans les 20 prochaines années. C'est vraiment un processus où on souhaite vraiment se projeter dans l'avenir. Donc, voilà, alors c'est du travail qui a été fait entre ces deux temps. Et là, l'étape qui vraiment, l'étape finale, qui culmine l'ensemble de cette démarche, c'est le Forum des États généraux qui va se dérouler du 14 au 17 novembre prochain. Donc, j'annonce déjà les dates. ce sera à l'UQAM, donc à Montréal cette fois-ci. Et donc, voilà, on attend 1000 femmes, écoutez, qui vont vraiment s'exprimer et déterminer beaucoup de choses pour le mouvement des femmes dans les années à venir.
D'accord. Donc, c'est vraiment un gros événement qui s'en vient à l'automne. On va poursuivre en musique pour l'instant, puis après, on pourra quand même se lancer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine à Québec?
On va écouter Maluma et la chanson s'intitule « Yarab ».
واحط هذا فأنت ربي محيي العظام. أفرج كروبي وستر عيوبي وعفي ذنوبي واغفر آثامي.
Les ondes de CKIA FM, vous écoutez toujours Ainsi Squat-elle et on est en compagnie d'Elisabeth Germain et Isabelle Picard pour parler des événements autour des états généraux de l'analyse et de l'action féministe qui vont avoir lieu en fin de semaine à Québec. Donc, il y a une conférence qui est prévue vendredi soir, on en reparlera tout à l'heure, qui a l'air fort intéressante. Et puis samedi, une journée de réflexion. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? L'une ou l'autre d'entre vous.
Écoutez, je peux faire une tentative, puis j'inviterai ma coéquipière Elisabeth à compléter avec moi. Donc, alors, les états généraux de l'action et de l'analyse féministe, comme on le disait tout à l'heure, c'est un processus qui déjà dure depuis 2 ans et va se culminer, donc, lors du Forum des états généraux, à l'automne 2013. Alors, à un moment donné, la Fédération des femmes du Québec a senti, je pense, le besoin de faire une tournée donc partout dans les régions qui sont intéressées à faire venir la Fédération des femmes du Québec afin de parler justement de la démarche du processus des États généraux, mais en s'approchant davantage de toute personne intéressée, interpellée par les enjeux féministes. Et donc, en fin de semaine, alors... à l'initiative du regroupement des groupes de femmes de Québec ainsi que du collectif Léa Robach, dont Elisabeth et moi-même faisons partie. Donc, ces deux organisations se sont orchestrées, organisées pour faire venir donc cette tournée qui, dans le fond, rejoindra possiblement, bien entendu, les femmes de la grande région de Québec, mais également une invitation a été lancée pour les femmes de la région de Chaudière-Appalaches qui juste à côté. Alors, donc, ça s'inscrit, cette démarche-là, vraiment dans la démarche des États généraux. Alors, l'idée est vraiment de donner la parole aux femmes pour qu'on puisse les entendre sur différents enjeux, différentes préoccupations qu'elles portent, donc sur des défis également qui ont été identifiés lors du colloque de mai 2012, et donc de leur donner cette possibilité de s'exprimer et d'être mieux sensibilisées, mieux informées, mieux outillées sur tout ce qui se passe au niveau du mouvement actuellement. Dans un climat, puis c'est important, je crois, de le dire, dans un climat d'austérité. Là, quand on regarde le gouvernement fédéral qui a été élu aux dernières élections, c'est pas un gouvernement qui est très favorable à l'amélioration des conditions de vie des femmes de manière très, très, très générale.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, c'est très important actuellement dans cette conjoncture de s'interpeller et d'être mieux outillé sur qu'est-ce qui se passe actuellement puis comment on se projette.
Face à un contexte conservateur, puis pas seulement au niveau canadien, là, mais on le voit avec les attaques répétées des dernières semaines et des derniers mois, là, c'est pas beaucoup mieux sur la scène provinciale. Ouais. Donc, dans quelles autres régions la tournée a prévu de s'arrêter? Peut-être rapidement, puis après on...
Bien, la tournée s'arrête dans plusieurs régions du Québec. Okay. Là, elle va aller dans Laurentides-de-la-Naudière, elle va aller à Sherbrooke, au Saguenay. Elle est allée déjà dans certaines régions. On fait le tour un petit peu partout. Ça va s'en aller jusqu'à la baie James, je crois.
Quand même.
Ils sont allés en Gaspésie. Vraiment, ça se promène partout. Tu sais, on est habitué à voir la science ou les grandes idées qui se développent avec des penseurs d'élite et tout. Mais quand on arrive dans le mouvement des femmes, quand on arrive dans les mouvements populaires, c'est autre chose. La pensée, elle se développe à partir de la réalité des femmes, en l'occurrence, parce qu'on parle du mouvement féministe, mais en tout cas des femmes et des hommes qui vivent les choses dans leur chair, dans leur vie quotidienne. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important de faire le tour, d'appeler les gens à parler, de les écouter, puis pas juste de écouter leurs paroles, puis ensuite aller bâtir des théories avec, mais vraiment déclencher des interactions pour que ça soit ensemble qu'on bâtisse notre pensée sociale, notre théorie sociale, puis que nos stratégies d'action arrivent à faire installer dans la vie politique, dans la vie sociale large, ce qui nous semble le plus important pour que la vie soit meilleure pour les gens. Mm-hmm. Parce que finalement, c'est ça le but de la vie en commun, c'est que la vie soit meilleure pour les gens. Alors, on à la fois, on veut développer quelque chose de très, très bien articulé, très profond, mais on veut que ça soit toujours enraciné dans le quotidien des femmes, des hommes, des citoyens, des citoyennes qui ont à vivre les choses au quotidien.
Fait qu'il y a vraiment une démarche féministe à tout point de vue et aussi dans sa forme. Mm-hmm. Quelle forme ça va prendre justement samedi, la journée de réflexion qui va avoir lieu donc à l'Université Laval?
Alors, ça va être des ateliers. Il y a la présidente de la Fédération des femmes qui vient, là, c'est elle qui fait la tournée, qui est accompagnée d'une autre animatrice. Et elles ont tout un programme d'animation pour la journée où on a des présentations puis des ateliers de travail. Les ateliers de travail vont tourner d'une part autour des défis qui ont été identifiés par les tables de travail dont Isabelle parlait tout à l'heure. Vont tourner aussi autour des principes qui animent la démarche des États généraux. Puis un atelier plus concret de comment embarquer dans les médias puis faire des petites capsules qui où on peut avec humour, avec conviction, avec convivialité énoncer nos désirs et nos théories de féministes.
Oui, c'est certainement quelque chose que j'ai remarqué dans le document de préparation à la journée de samedi. Je voyais ça, de participer carrément à une capsule vidéo live là pendant la journée. Je trouve que c'est une façon vraiment intéressante de présenter la participation aux médias sociaux à des personnes qui sont peut-être moins... qui ont peut-être moins tendance à le faire pour différentes raisons.
Il y en a qui le font déjà beaucoup. Je veux dire, si tu t'en vas sur Facebook, tu vas voir qu'il y a un paquet de féministes qui sont très, très, très actives et très à l'aise avec les médias. Il y en a d'autres qui le sont moins. Alors là, c'est sûr que ça va mettre un peu tout le monde à niveau puis donner le goût de participer aussi à des femmes qui sont peut-être plus éloignées puis plus méfiantes. Ben là, elles vont plonger dans le bain, là, puis elles vont voir live, là, comment ça se fabrique.
Mm-hmm. Je trouve également, j'ajouterais que c'est une façon aussi de s'approprier notre propre pouvoir, donc de reconnaître qu'on a, dans le fond, ses compétences, qu'on a cette possibilité de s'affirmer, de s'exprimer. Donc, les médias sociaux, en effet, c'est pas toutes les femmes qui se sentent à l'aise avec ce type de médias pour pouvoir s'exprimer, mais en même temps, ce sera une occasion, dans le fond, de prendre conscience qu'on a toute cette capacité-là, et des fois, c'est plus un manque d'information ou de comment on utilise ces outils et d'accès. Et d'ailleurs, j'en profite également parce qu'on parlait de capsules vidéo. Pour les auditrices et auditeurs qui seraient intéressés, nous avons un site magnifique. Donc, je vais vous donner tout de suite l'adresse. C'est le www.etatgeneraudufeminisme.ca. Et sur ce site Internet qui grandit de jour en jour en termes d'informations, mais en termes d'interactivité qu'on souhaite également créer, vous avez donc des capsules vidéo de femmes qui ont participé au colloque à l'Université Laval, donc en mai 2012, et vous avez donc des questions bien précises et des femmes de tout horizon qui s'expriment sur quels sont pour elles leurs vœux féministes pour les années à venir, quels ont été pour elles la lutte ou l'événement le plus important lors des 20 dernières années. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller les entendre à ce sujet.
Super. Ben, on mettra certainement le lien sur notre site web, bien que semaine après semaine, on rappelle à nos auditrices et auditeurs qu'on a hâte qu'Evelyne revienne pour reprendre le dessus sur la mise à jour du site web, mais on s'assurera de mettre le lien vers le site des États généraux qui a l'air en effet fort intéressant. On va poursuivre en musique pour l'instant, puis après, on se lancera dans c'est quoi ces défis-là auxquels le mouvement féministe fait face au Québec.
Oui, on va écouter Skip and Die. La chanson s'appelle La Cumbia Dictadura.
Ra, ra. siento, lluvia, tierra, sangre, teñe, quiera.
Toujours sur les ondes de CKIA FM. On n'avait pas envie que la chanson se finisse, mais quand même, on revient pour discuter d'un sujet super intéressant. Donc, la journée de réflexion qui va avoir lieu ce samedi dans le cadre des États généraux de l'action et de l'analyse féministe. Et puis, on était rendu à poser la fameuse question qui me chicote depuis le début. C'est quoi ces 7 défis-là que le mouvement féministe, auquel le mouvement féministe fait face au Québec en 2013, ou en tout cas, les 7 défis qui sont ressortis dans le cadre de la démarche des États généraux?
Alors oui, donc il y a 7 défis qui en sont ressortis, et c'est des défis, c'est important je pense de le mentionner, c'est des défis qui ont été retenus lors d'une plénière, donc toujours dans le cadre du colloque en mai 2012 à l'Université Laval, et donc les femmes qui étaient présentes, on était plus de 350 personnes, je pense que c'est important également de le souligner, donc se sont prononcées et ont retenu donc 7 défis. Et ces défis, chacune des sept tables de travail qui travaillent actuellement, activement là-dessus, donc chacune des tables de travail relève un défi en particulier. Donc, je peux vous les nommer rapidement, puis peut-être qu'on pourrait s'arrêter ou s'attarder sur certains d'entre eux. Donc, vous avez, premier défi, c'est le bien commun, donc qui fait référence, bien entendu, aux pressions de l'économie capitaliste mondialisée. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce niveau quand on fait référence, entre autres, à toute la sphère des milieux de travail, occupés par les femmes. Vous avez comme deuxième défi la liberté, donc il y a beaucoup d'éléments dans ce défi qui fait référence à la marchandisation du corps et de la sexualité des femmes, ainsi que l'augmentation de l'influence de la droite religieuse, donc qui va par le fait même affecter la liberté des femmes. Donc c'est le lien qu'on peut faire. Vous avez également une autre table, un autre défi qui fait référence au bien vivre. Donc, qui cherche à réfléchir à la réduction des inégalités, puis à l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes. Donc, voilà, vous avez par la suite l'égalité entre les femmes. Alors, pour nous, c'est un constat de remarquer que l'égalité, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois comme discours dans la société, que l'égalité entre les femmes, pas entre les femmes, oui, je pense qu'il y a ce constat-là, mais que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas atteinte. enceinte. Donc, il y a toute la question pour nous du respect de la diversité et de l'inclusion de toutes les femmes dans le mouvement féministe. Et donc, on pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est vraiment le développement de pratiques féministes anti-oppressives et anti-racistes. Donc, je m'y arrête. Donc, l'autre terme qui est fort intéressante et qui, moi, en tout cas, me touche particulièrement, c'est le défi qui touche l'autodétermination. Donc, contrairement aux autres tables de travail, c'est une table qui a été initiée et qui est, dans le fond, organisée par la Femme autochtone du Québec. Donc, c'est une table qui se veut inclusive. Alors, il y a, bien entendu, des femmes autochtones, mais également des femmes non autochtones. Donc, et le travail de cette table, de ce défi, vise à outiller la société québécoise pour qu'elle soit plus encline à s'intéresser à l'histoire, aux pratiques et aux cultures autochtones pour mettre fin à l'ignorance ainsi qu'aux préjugés que vivent les autochtones et, bien entendu, les femmes. Et donc, comment on peut développer un tissu social de solidarité féministe entre les autochtones et les femmes non autochtones pour justement lutter contre toute forme d'oppression et d'exclusion. Mm-hmm. Alors, il y a encore beaucoup de préjugés, de racisme à défaire. Alors, c'est une table que je trouve fort intéressante à ce niveau. Vous avez également les deux derniers défis, donc mouvement et parole. Mouvement va se concentrer davantage sur les dynamiques même du mouvement. Donc, elle va chercher à identifier comment contrer le mythe de l'égalité. Donc, on voit déjà qu'il peut y avoir des liens intimement tissés entre certains défis. Mm-hmm. Voilà. Et la dernière, c'est parole. Donc, tout ce qui touche l'univers des communications, l'expression des femmes, comment celles-ci peuvent prendre davantage parole dans les différentes sphères publiques. Donc, beaucoup de travail également à faire à ce niveau.
Beaucoup de travail à faire dans les sept tables quand même. Oui. C'est un programme ambitieux que vous êtes lancé. C'est super intéressant, là, la table autodétermination, la table égalité entre les femmes particulièrement, ont allumé plein de questionnements dans ma tête. Puis, je trouve que ça tombe à point là, en cette année 2012 qui a quand même déjà été beaucoup marquée par le mouvement Idle No More, que cette réflexion-là est entamée déjà depuis un bon moment. Là, je pense que ça fait foi de la... du fait que la FFQ est vraiment connectée puis avec le mouvement en tant que Femmes autochtones du Québec. C'est bien ça le nom de l'autre fédération qui...
Oui, Femmes autochtones du Québec, tout
d'accord.
À fait.
Donc, peut-être on peut regarder un petit peu plus en détail là, la table égalité entre les femmes, qui était peut-être celle qui retenait notre attention ici à Squatel. Donc, quelle forme ça a pris jusqu'à maintenant, cette réflexion-là sur les pratiques anti-oppressives?
OK, ben c'est que, tu sais, on a commencé dans les débuts du mouvement, c'était l'égalité avec les hommes, là, c'est-à-dire les mêmes droits que les hommes et tout, là. Puis, alors, on a beaucoup, beaucoup travaillé, on a mis à jour ce qu'on a appelé l'oppression patriarcale, c'est-à-dire la domination du sexe masculin sur le sexe féminin, puis là, c'était particulièrement visible dans les questions de violence et tout, alors on a beaucoup, beaucoup travaillé en cherchant à ce que les femmes deviennent avec les mêmes droits que les hommes, avec les mêmes salaires. C'était ça, c'était l'égalité avec les hommes. Mais en travaillant ensemble, on n'a pas pu faire autrement que de se rendre compte que entre nous aussi, il y avait des inégalités, il y avait des lignes de fracture, il y avait des incompréhensions, il y avait des différences absolument énormes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'où ça vient? Ça, on s'en est aperçu en travaillant entre nous, mais aussi ça nous est venu de l'extérieur, comme par exemple les femmes noires américaines qui développaient leur mouvement puis qui disaient, ben pour nous, l'oppression de race est encore plus terrible que l'oppression de genre. Là, on est encore plus opprimé comme noir que ce qu'on peut l'être comme femme, tu sais. Alors là, tu sais, c'est vraiment très troublant. Tu dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La question des classes sociales. Des fois, il y a plus de distance entre une femme riche et une femme pauvre qu'entre un homme pauvre et une femme pauvre, tu sais. Alors, c'est ça. Au fond, on s'est mis à travailler, à se dire, il y a non seulement l'oppression masculine sur les femmes, mais il y a aussi toutes sortes d'autres oppressions qui se passe dans la société avec la question de la race, avec la question de la fausse question de la race, là, avec
la question de la fausse race,
la vraie question de la fausse race, avec la question des classes sociales, avec la question de l'hétéro ou de l'homosexualité. Il faut voir comment ces oppressions-là se croisent. Ils sont pas parallèles, ils sont vraiment entrecroisés les unes aux autres. Alors, c'est ça qu'on essaie de travailler. Comment tenir compte du fait qu'il y a différentes oppressions qui s'entrecroisent à travers les femmes, à travers une femme individu, puis à travers les femmes comme groupe pluriel. Mmh. Puis comment est-ce qu'on peut trouver une unité d'action à travers ça, mais qui va tenir compte de ces différentes oppressions-là? On n'a pas la réponse. On est en train de travailler ça. Puis c'est pas facile à travailler parce que, c'est ça. Quand tu trouves des nouvelles affaires, tu dis, c'est ça, je m'en vais là-dedans, c'est encore plus important. Mais l'autre femme à côté qui n'a pas été confrontée aux mêmes questions que toi, mais elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent de côté l'oppression patriarcale, ils laissent de côté le féminisme traditionnel. On perd la question de l'égalité homme-femme là-dedans si on s'en va dans la question du racisme, des classes sociales, de l'hétérosexualité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Puis c'est des questionnements qui sont, somme toute, assez récents. Ou en tout cas, c'est pas des questionnements dont on a beaucoup entendu parler dans le mouvement féministe plus mainstream ou plus conventionnel. Comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que vous avez eu des conflits ou jusqu'à maintenant, c'est assez... ça semble faire consensus que c'est des questions qu'on peut plus... qu'il faut plus esquiver puis auxquelles on doit s'attaquer?
On est en plein dedans. Des fois, c'est fou, hein. Tu sais, t'as toujours du monde qui est des spécialistes, là. Tu sais, t'as des féministes spécialistes du féminisme, là, qui, elles, ont des mots théoriques, comme le grand mot intersectionnalité. T'entends ça pour la première fois, intersectionnalité, tu dis qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? Hein? Puis finalement, c'est... Ben, tu sais, en mathématiques, on parle de l'intersection quand il y a deux cercles qui se recoupent. Ben, l'intersection des oppressions, c'est quand il y a deux ou plusieurs oppressions qui se mêlent ensemble, qui s'entrecroisent. C'est ça, l'intersectionnalité. Puis souvent, la première fois qu'on en entend parler, c'est par rapport à l'intervention auprès d'une femme qui va être, par exemple, pauvre, noire et violentée. Alors là, elle vit une intersection d'oppression. Ça passe bien. Mais quand ça arrive sur un plan théorique plus large, puis que là, ça devient les grosses discussions théoriques, ah là, il y en a beaucoup qui boquent, là. C'est comme, ça passe plus. Je pense qu'il faut faire attention à pas brandir les mots comme des armes, mais à s'assurer que, ah tiens, là, on a une réalité, on va mettre ce mot-là pour bien comprendre la réalité. Puis on va essayer d'avancer ensemble pour comprendre les choses. Ben, c'est sûr qu'il y a certains endroits dans le féminisme où là, t'as du monde qui est, dans le mouvement des femmes, t'as des femmes qui sont braquées un peu les unes contre les autres dans leur position.
Par rapport à certains enjeux.
Mais dans la plus grande partie du mouvement, les femmes sont vraiment en recherche et ouvertes à la discussion. Mais c'est des questions difficiles.
Ouais, c'est des questions difficiles. Puis c'est intéressant, là, justement, ce lien entre pratique concrète puis théorie, parce que dans le mouvement queer, justement, on parle beaucoup d'intersectionnalité, et puis ce mouvement-là, il vient à l'origine de pratiques dans la rue, là. Il vient des existences quotidiennes des gens, donc puis c'est intéressant de voir aussi tout le discours qui a été fait sur la théorie, l'intersectionnalité, sur Judith Butler, à qui on a attribué la naissance du mouvement queer, alors que ça vient pas non plus d'elle. Donc en tout cas, c'est tout ce lien-là, c'est qu'il faut jamais oublier, c'est ça, que dans la vie, qu'est-ce que ça fait dans la vie concrètement quand une femme noire, handicapée, homosexuelle, vit plusieurs oppressions? Parce que oui, les oppressions, elles s'entrecroisent, mais elles s'ajoutent. Mmh. En fait, elles se superposent les unes aux autres. Donc, c'est vraiment intéressant, en tout cas, de voir que dans ce mouvement des femmes-là, au Québec, il y a ces réflexions, parce que c'est vrai que ces réflexions-là sont apparues aussi dans d'autres mouvements. Puis c'est jamais simple, mais je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas les négliger. Au contraire, là, c'est vraiment indispensable, d'après moi, maintenant. C'est pour ça que moi, quand on pense à ça, au mouvement des femmes, moi, je me pose toujours la question des femmes On parle de quelles femmes? Est-ce qu'on parle des femmes qui se disent femmes, des femmes dont on dit qu'elles sont femmes, des femmes qui étaient femmes ou qui vont devenir femmes? C'est pour ça que tantôt je vous posais hors onde la question de l'accessibilité, de l'ouverture justement par rapport à, et de l'inclusion par rapport à vos activités qui vont être faites. Donc c'est ça, ça amène plein de questions et plein d'enjeux, mais je trouve ça vraiment intéressant en tout cas tout ce qui se passe dans le mouvement en ce moment là.
Et pour nous, ce que vous venez de mentionner est quand même une question importante à réfléchir. Et on a donc débuté cette réflexion. Je le mentionne en nombre parce que je me dis que si cette réflexion est débutée donc au sein du comité d'orientation concernant toute la question des femmes queer et particulièrement des femmes trans, quelle est la place qu'on donne à ces femmes. Alors, on est dans le tout début d'une réflexion. Il est trop tôt encore pour pouvoir clairement se prononcer à ce sujet, mais le simple fait qu'au sein du comité d'orientation dont je fais partie, cette question est apparue très rapidement dans le tout début de nos travaux et de nos rencontres, nous amène à croire que c'est une préoccupation importante sur laquelle on doit s'arrêter. Donc, être davantage sensibilisé, être davantage informé, outillé, et donc voir pour la suite qu'est-ce qui se produira.
C'est vraiment des questions super intéressantes, je trouve, qui ressortent. Et puis, donc, je me dis, crime, ça doit être intéressant cette journée de samedi. Est-ce qu'il est encore temps d'y participer? Est-ce que pour les personnes qui en entendraient parler pour la première fois ce soir, est-ce qu'elles peuvent se joindre à la démarche de réflexion ou il est trop tard puis faut qu'elles attendent à un prochain événement?
En principe, les inscriptions se terminaient vendredi dernier.
Le 8 mars.
Le 8 mars. En pratique, il reste encore de la place. Alors, on est mercredi. Ben, mettons que si demain, il y a des femmes qui veulent communiquer avec le regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale qui prend les inscriptions pour la journée de samedi, ça pourrait sûrement se faire.
Si on est super gentil, on pourrait peut-être se faire une petite place. Ben, ça a l'air d'une journée fort intéressante qui va avoir lieu donc toute la journée de samedi de cette semaine à l'Université Laval à Québec. Et puis, vendredi soir, pour les gens qui seraient intéressés à participer, à venir assister à une conférence publique. Donc, il y a Alexa Conradi qui va être là. De quoi elle va nous entretenir?
Alors, Alexa va faire une conférence intitulée « Quel projet féministe de société en ces temps conservateurs? » Alors, c'est pas nouveau, on en parlait un petit peu tantôt, là, que ce soit au niveau du Québec, encore plus au niveau du Canada, puis au niveau de tout ce qu'on voit dans le monde avec la mondialisation et tout, de plus en plus, c'est les intérêts économiques, commerciaux, on se replie sur ce qui est profitable, les droits prennent le bord, les droits des femmes, les droits des minorités, etc., c'est plus important, là. Faut que ce soit une question d'argent, puis c'est l'argent qui passe avant. Alors, comment on peut instaurer un projet de société féministe alors que toute la société est comme dans un courant contraire? Puis un projet féministe de société, je peux pas le définir pour tout le monde, mais ça veut dire, si on est toutes d'accord, ça veut dire un projet où toutes les femmes ont leur place, où on n'est pas en concurrence, mais où on essaye de contribuer à un bien commun qui va permettre aux femmes, mais à toutes les personnes aussi, de trouver leur place, de se développer et de bien vivre.
Moi, j'avais eu l'occasion d'entendre Alexa Conradi sur un thème qui me semble ressembler beaucoup l'année dernière à l'Université féministe d'été. J'avais trouvé que c'était fort intéressant, là, vraiment, c'est à ne pas manquer. Donc, c'est ce vendredi à 19h, si je ne me trompe pas.
Ce vendredi à 19h, c'est au pavillon Desjardins de l'Université Laval. Il y a une salle au quatrième étage qui s'appelle Le Cercle. Il ne faut pas se tromper, là, c'est pas Le Cercle sur la rue Saint-Joseph. C'est la salle Le Cercle au pavillon Desjardins de l'Université Laval.
Super. Donc, on poursuit en musique et puis... Donc, après, on pourra faire notre traditionnel calendrier militant pour les prochains jours.
On écoute Dub Colossus. La chanson s'appelle As Mary Dub, du dub éthiopien.
Thank you.
CKIA FM, vous écoutez toujours Ainsi Squat-t-elle. Donc, c'est déjà presque tout pour aujourd'hui, mais je voulais remercier vraiment chaleureusement nos deux invités qui ont fait une émission fort intéressante avec nous ce soir. Donc, Elisabeth Germain, qui est vice-présidente de la Fédération des femmes du Québec et membre du collectif Léa Robach ici à Québec. Merci beaucoup d'être venue. Et puis, Isabelle Picard, qui est co-porte-parole des États généraux de l'action et de l'analyse féministe dont on a parlé aujourd'hui toute la soirée. Merci vraiment d'être venue. C'était super intéressant. Et puis, ben, peut-être que ça a redonné le goût, qui sait, en tout cas au moins à une personne, de se libérer samedi pour aller participer à la journée de réflexion. Et puis, peut-être d'autres, qui sait. Donc, on poursuit.
Est-ce qu'on peut rappeler le site Internet, en fait? C'est État généraux du féminisme.
Etatgeneraudufeminisme.ca, donc tout d'un bout. Et peut-être également préciser que la conférence publique vendredi, c'est une activité mixte.
D'accord. Okay. Super. Ben, c'est vrai que c'est important de le préciser puisqu'on ne l'avait pas fait. Puis on va mettre toutes les tous les liens vers ces informations-là dès ce soir ou demain sur le site web d'Ainsi Squat-t-elle. Donc, Ainsi Squat-t-elle avec des traits d'union.org. Comme je disais, donc, maintenant, pour de vrai, on termine avec le calendrier militant. Il y a plusieurs événements super intéressants qui s'en viennent. Bon, en plus des événements de vendredi et samedi. Donc, dès la semaine prochaine, mercredi 20 mars, dans le cadre des mercredis agités, il va y avoir une rencontre qui va porter sur la question de l'avortement. Et puis, donc, vous connaissez la formule, ça se passe à l'agité à partir de 19h, l'agité qui est au 255 Dorchester. à Québec. Et puis, sinon, ben, pour les prochaines semaines, juste rapidement, le 3 avril, un mercredi agité sur la prostitution, le 17 sur les libertariens. On verra ce que ça donne. Et puis, après, on va déjà être rendu au cabaret du 1er mai, mais on aura le temps d'en reparler. Et puis, ben, faut se rappeler que pendant ces soirées-là, la page noire est ouverte à la JT. Donc, si vous vous ennuyez de votre librairie anarchiste préférée, vous pouvez aller faire vos emplettes pendant les mercredis. Ensuite, le jeudi 21 mars, une petite plug communautaire comme ça en passant, c'est le lancement de la campagne de financement du Fonds de solidarité des groupes populaires. Et puis, donc, ça va être dans le cadre d'un 5 à 7 qui va avoir lieu au Petit Impérial de Québec, qui est juste la porte à côté de l'Impérial. Et c'est une soirée, donc, bénéfice au profit du fonds. Il va y avoir le prof Lauzon fait de l'humour, qui est un spectacle d'humour par Léopold Lauzon, qui est paraît-il super intéressant. Je vous en reparlerai peut-être si ça vaut la peine. Et puis, je me fais faire des signes incompréhensibles. Et donc, c'est au coût de 25 $ parce que, évidemment, c'est une activité de financement. Les billets sont en vente en ligne sur le site du Fonds de solidarité, donc le fsgpq.org, et ou encore en personne à la DDS de Québec au 301 rue Carillon. Ensuite, 23 mars, ben la semaine prochaine, vraiment une semaine chargée. Donc, le samedi 23 mars, de 10h à 16h, il y a un forum ouvert sur la démocratie qui est organisé par le collectif L'Atelier. Et donc, ça va avoir lieu aussi à la JT. L'idée, c'est de se poser la question, c'est quoi la démocratie? Est-ce que ça se passe dans des assemblées, à l'Assemblée nationale ou dans des assemblées générales? Et donc, comme on est un petit peu à la dernière minute, comme d'hab, je vous en dis pas plus long, mais je vous invite vraiment, chaleureusement et fortement à aller voir de quoi ça va avoir l'air. Il y a un événement Facebook qui est diffusé largement et puis vous pouvez aussi visiter le site web de l'atelier que malheureusement je ne connais pas encore par cœur. Donc voilà, il y a ça qui s'en vient samedi le 23, toute la journée à la JT. C'est ouvert à tout le monde et puis c'est gratuit. Et finalement, peut-être un petit peu d'avance quand même parce que c'est le 28 mars, je me dépêche à finir, mais Julia Serrano qui arrive à Montréal.
Oui.
Allez
oui.
Checker ça, googlez tout ça et puis on s'en reparle à notre prochaine émission. C'est déjà tout pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Isabelle et Elisabeth. Et puis, ben nous, on se retrouve dans 2 semaines.
Merci, Tiffaine. Bonne soirée. Merci, Riff.
Le 27 mars, le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique du monde avec Zakir Hussain. Le plus respecté joueur de tabla, Zakir Hussain est le maître absolu du santo indien, Pandit Shiv Kumar Sharma.